Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire et bonne fin de vacances parce que je crois qu'on approche quand même un peu de la fin du mois d'août et je crois que les rentrées ont déjà commencé sur les grandes villes. Voilà, alors nous allons laisser les vacanciers dont on a parlé la semaine dernière à leurs agapes, au pique-nique. Ben, il ne fait pas très chaud en ce moment. Hein. Bien, et on va voir un peu, ben, on va profiter de cette fin août pour visiter un peu quand même le Périgord. Alors, j'ai sous les yeux un livre qui s'intitule Château du Périgord. Alors, Château du Périgord, c'est édité par les éditions Patrimoine Média et réservé pour tout pays en 2011. Voilà. Alors, il y a une quatrième de couverture qui nous dit rien de tel pour prendre un peu de hauteur, pour profiter pleinement d'un château. Du ciel, c'est toute l'histoire des bâtiments qui se dévoile comme un livre ouvert. Plan général, vestige, reconstruction, d'un seul coup d'œil suffit aux connaisseurs pour apprécier les monuments. La vue d'en haut permet également de situer ces châteaux dans leur environnement naturel ou savamment construit. Ces paysages magnifiques apportent à ces témoins de notre histoire une infinie poésie. C'est vrai qu'il y a de très belles photos aériennes et la couverture, je pense que c'est le château de Bannes qui se trouve du côté de Montferrand. Alors dans cette collection, alors les photographies aériennes sont de Michel Bernard et les textes de Myriam et Michel Bernard. Alors bien sûr il y a d'autres choses, il n'y a pas que ça. Dans cette collection, les autres titres, alors sont des balades aériennes et châteaux, alors chez le même éditeur, les Charentes, le Périgord, on vient d'en parler, la Gironde, Lot-et-Garonne, le Morbihan, le Tarn, la Vendée, la Vienne, et puis il y a aussi les châteaux et logis, il y a le Lot, le Tarn, la Vienne, le Puy-de-Dôme, etc. Et puis alors des fascicules un peu plus épais, château du Périgord et d'Aquitaine, château de Normandie, château en Île-de-France et château en Poitou-Charentes sont des ouvrages qui ont quand même entre 150 et 180 pages. Alors, donc on va retrouver nos châteaux du Périgord, bien entendu. Alors bien sûr, il y a le château de Puy-Guilhem. Alors, château de Puy-Guilhem qui se trouve à Grand-Brassac, sur sa commune de Villars, pardon, excusez-moi, je me suis trompé, donc Puy-Guilhem sur la commune de Villars, alors, c'est dans le nord du pays, du Périgord. Alors Puy-Guilhem, alors délivré des grands trains guerrières, Mondo de la Martoni, alors je lis un peu ce qui a marqué, a pu faire construire au début du XVIe siècle le château de Puy-Guilhem, exemple typique de la première Renaissance qui aurait sa place aussi bien sur les bords de la Loire que de la verdure du Périgord. Dans sa décoration effouillée, balustrade ajourée, fenêtres à meneaux, lucarnes et mâchicoulis forment une véritable dentelle de pierre. Alors, sans transformation ni ajout, il est quasiment dans son état d'origine. Alors, il se visite. Je l'ai visité il y a quelques années de ça, et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que on se rend vraiment à, comme je pourrais dire, à Chinon, voilà, sur les bords de la Loire. Alors, il y a notre château qui est Mareuil. Alors, Mareuil, dans son dépouillement actuel, laisse apparaître clairement le système défensif d'une puissante forteresse châtelée d'accès, enceinte avec ses tours d'ouvres conservées lors de la transformation du château au XVe siècle par Geoffroy de Mareuil. Bien sûr, c'est une puissante quand même indispensable, et Mareuil qui pourrait se targuer d'être l'une des quatre baronnies du Périgord. De ses tours conserve une magnifique chapelle de style gothique flamboyant. Alors bien sûr, il y a un donjon qui est massif, flanqué de deux corps de logis, et lors de son acquisition en 1963 par le duc de Montebello, descendant du maréchal Lannes, ses alentours ressemblaient plutôt à une cour de ferme abandonnée. Après une longue et minutieuse restauration, le château s'ouvre au public, peut y admirer différentes salles présentant des souvenirs du Premier Empire, plus particulièrement des maréchaux Lannes et Berthier, ainsi que de Napoléon Ier. Alors c'est sur la commune de Mareuil. Voilà. Donc on peut le visiter, c'est quelque chose qui est intéressant, ne serait-ce que pour les souvenirs du Premier Empire. Alors, on avait Puy-Guilhem, il y a le château de Marouatte. Alors, peut-être moins connu, une colline escarpée accueille le château de Marouatte, ce belvédère surplombant la vallée de l'Euche, et plus loin, celle de la Rhône était déjà occupée il y a très longtemps par les hommes de Néandertal. On y a également trouvé une sépulture de l'âge du bronze, une voie romaine courait dans la vallée, certains auteurs pensent que les bâtiments actuels pourraient recouvrir une forteresse gallo-romaine. C'est bien possible, de toute façon. S'il y a une voie romaine qui passe par là, il est fort possible qu'il y ait quand même des bâtiments gallo-romains. Alors, et puis, il y avait évidemment Bourdeil. Alors, Bourdeil, c'est un des hauts lieux du Périgord, qui se visite également. Et puis, ben, ça se trouve sur la commune de Bourdeil, avec un S. Alors, voilà ce qu'on nous dit. Dominant la Drône au nord et le village au sud, le château de Bourdeil occupe une terrasse rocheuse qui semble être là toute exprès pour recevoir une forteresse dont la première mention dans l'histoire remonte à 1183. Toutefois, dès le IVe siècle, une légende fait état d'une certaine Attilda de Bourdeil, fils du roi d'Angleterre. Et puis, pardon, du roi d'Angleterre égalisé et rehaussé d'un rempart, l'esplanade ainsi constituée servit de base au château fort actuel. Alors, il y a un donjon octogonal, qui est assez curieux d'ailleurs, de 35 mètres au mur épais de près de 3 mètres, est entouré d'une ancienne mâchicoulis qui compte directement le trafic fluvial ainsi que la route empruntant le pont sur la rivière. Alors c'est pareil, c'est un des endroits qui va, bien sûr, Bourdeil est connu. Et puis il y a aussi à la Renaissance, nombre de forteresses médiévales furent transformées avec plus ou moins de bonheur en château d'agrément. Ici, c'est un deuxième château qui fut construit sur le promontoire. L'austère système défensif se prêtait sans doute mal à une transformation. Alors, ce château, évidemment, qui a été construit ou reconstruit, se visite, bien évidemment. Alors, on doit cette décision à Jacques de Montbron, épouse d'André de Bourdeil, célèbre chroniqueur Pierre de Bourdeil, qui est le frère d'André. Il est plus connu sous le nom de Brantôme et né au château. Alors, le S final de Bourdeil, comme je disais, n'est pas là pour indiquer la présence des deux châteaux. Il s'agit simplement d'une erreur administrative datant du milieu du XXe siècle et que l'usage a pérennisé. Vous pouvez constater, cette modification ne touche pas le nom du lieu, les noms de famille de Bourdeil, gardant son orthographe habituel, c'est-à-dire sans S à la fin. Et donc, ça avait de la Drône, et ça se trouve, bien entendu, à Bourdeil. Alors, il y a un autre château. Alors là, on va partir un peu dans le Bergeracois, et il y a, dans la vallée de l'Is, à Issac. Alors, à Issac, eh bien, il y a le château de Montréal. Alors, c'est assez curieux, ce nom de Montréal. Alors, voilà ce qu'on nous dit. À l'extrémité d'un promontoire rocheux se dresse le château de Montréal, qui aurait donné son nom à la deuxième ville française après Paris. En effet, Claude de Pontbriand, seigneur de Montréal, se trouvait aux côtés de Jacques Cartier lorsqu'il fonda en 1735 la bourgade qui devait devenir Montréal. Ainsi s'est levé le château noir qui fut pillé et détruit par les Normands au IXe siècle. À sa place au XIIIe siècle, une nouvelle forteresse se construite, protégée d'une double enceinte. Elle fut prise et détruite un siècle plus tard par le seigneur de Grignol. Les temps moins guerriers de la Renaissance virent la reconstruction des bâtiments mieux adaptés à une vie plus douce. Le corps du logis présente une façade François Ier percée de fenêtres à meneaux. La chapelle a été aménagée pour recevoir le reliquaire de la Sainte-Épine trouvé sur le corps du général Talbot après la bataille de Castillon en 1453. De ce fait, Montréal fut pendant longtemps un lieu de pèlerinage. Mais de toute façon, ce château et la petite esplanade qui va avec, et les anciennes fortifications, bon, sont à visiter, et donc ça se trouve sur la commune d'Issac, comme je disais. Alors là, on va repartir un peu dans le nord du département avec Jumillac. Alors, Jumillac, bien, il y a une fameuse toiture qui est le chapeau du marquis, qui est une voiture un peu curieuse, en ardoise, voilà. Alors, bah, c'est ce qu'on nous dit sur ce château de Jumillac, dont on a parlé il y a déjà quelque temps. Alors, sur son promontoire rocheux, le château draine les visiteurs à lui par l'imposante allée bordée d'arbres qui sépare en deux le bourg. Les jardins situés à l'opposé semblent plutôt réservés aux hôtes de marque, aménagés en terrasse française. Il évoque le thème de l'or et de l'alchimie. C'est vrai que dans les rivières de la région, on trouve de l'or. Vous pouvez y aller si vous voulez être chercheur d'or. Alors, de la forteresse d'origine datant du XIIe siècle, il ne reste rien de visible. Reconstruite plusieurs fois, la partie centrale subsistant aujourd'hui date du XIVe siècle. Alors, Antoine Chapelle, riche maître de forge, c'est vrai qu'il y a beaucoup de forges dans la région, racheta le château à la fin du XVIe siècle. On lui doit les toitures d'ardoise, actuellement avec lanternon, tourelle et cheminée. Donc, vous voyez, il y a le chapeau du marquis. Alors, l'ensemble est surmonté d'étonnants épis de faîtage en plomb, décorés d'oiseaux, de figures humaines et fantastiques. Alors bien sûr, ces structures sont un peu complexes, et voilà, je m'y arrive d'être souvent appelé la perle noire du Périgord. Les deux ailes fermant la terrasse ne furent ajoutées qu'au XVIIe siècle, en utilisant les mêmes matériaux que la partie plus ancienne, s'intègre parfaitement bien à l'ensemble. Alors bien sûr, le château de Jumillac se visite également, ou tout au moins se visiter. Je suis allé plusieurs fois à Jumillac, mais j'avoue ne pas l'avoir visité, il faudra que j'y revienne. Hein. Alors, on va se rapprocher un peu de chez nous, si je peux dire. Et puis, il y a Excideuil. Il est des lieux chargés d'histoire, Excideuil, et de cela, le site choisi par les vicomtes de Limoges pour y construire une des plus puissantes forteresses de toute la région et installer leur cours. Ce lieu hautement stratégique commandait le passage du Périgord au Limousin. En surplombant la Loue est encadrée par deux ruisseaux. La ville était entourée d'une enceinte et défendue par un château posé sur une éminence rocheuse toute proche. Alors, je dois dire qu'il y a souvent quand même des choses qui se passent, des expositions qui est dans cette partie du château qui n'est pas le donjon. Alors, le bourg fortifié fut maintes fois pillé, ravagé et détruit lors des guerres du Moyen-Âge et retrouva la grande prospérité grâce à une exemption de taxes qui s'appliqua de 1482 jusqu'à la Révolution. C'est bien payé par l'impôt. Le château, bien réduit à l'état de vestige, a gardé des allures de colosse invincible. Du haut de leur rocher, les deux donjons, quali reliés par une courtine et le logis Renaissance, semblent défier le temps. Alors, comme je disais, on y fait souvent quand même des expositions. Et puis alors, on va repartir dans le Bergeracois avec l'Anquet. Alors l'Anquet, c'est souvent qualifié le Louvre inachevé du Périgord. L'Anquet, classé monument historique depuis 1942, ce château fort au corps massif, datant du XIVe et XVe siècle, se vit agrémenté d'une partie Renaissance lors des guerres de religion, imitant la cour carrée du Louvre, le pavillon d'angle et l'œuvre de Pierre Lescot. Il fut commandé par Gallio de la Tour, qui voulait ainsi assurer le pouvoir royal et sa fidélité et sa soumission. On peut encore distinguer sur la face des impacts de boulets conservés fièrement, tels des médailles gagnées par les combats contre l'armée protestante. Alors, en 1577, bien sûr, ce château sera agrandi. Alors, on va y retrouver Isambeau de Limeuil, on va y retrouver quand même pas mal de personnes, de personnages historiques. Et puis, il paraît que ça aurait pu être la capitale d'une sorte de province qui serait partie de la région de Brive un peu, et puis qui serait allée jusqu'à Bergerac, voilà. Bon, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est fondé, mais en tout cas, je peux dire que j'ai bu un excellent Bazillac sur une des deux tables qui aurait servi au traité des Pyrénées. Alors, ce fameux traité des Pyrénées formalise une paix conclue entre la couronne d'Espagne et la France à l'issue de la guerre franco-espagnole. Alors, il est signé le 7 novembre 1659 sur l'île des Faisans au milieu du fleuve côtier Bilasoa, qui marque la frontière entre les deux royaumes. Alors, le roi Louis XIV de France et Philippe IV d'Espagne sont représentés par leur premier ministre respectif, cardinal de Mazarin et Don Luis de Haro. Voilà. Alors, on pourrait poursuivre un tout petit peu le traité dit des Pyrénées en raison de son article 42, qui dans la version française du traité énonce que les monts pyrénéens qui ont anciennement divisé les Gaules des Espagnes feront aussi dorénavant la division des deux mêmes royaumes. Alors, et puis il y a aussi un très bel musée d'objets préhistoriques. Alors, c'est ainsi que l'on peut admirer une collection d'objets préhistoriques dans le musée Alexis de Gourgues. Ils sont exposés plusieurs silex, des dents de mammouth et même une machine qui sert à laver le silex. C'est un ingénieux dispositif. Voilà, mais écoutez, on va arrêter là cette visite des châteaux du Périgord, qu'on reprendra peut-être la semaine prochaine. En attendant, profitez des derniers jours de vacances. Voilà, au revoir.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.